Alors, si vous voulez bien, on va continuer là où on s'était arrêté la dernière fois. Vous vous rappelez où on s'est arrêté la dernière fois? Vous vous souvenez pas où on s'est arrêté la dernière fois? Éphésiens 5. Ça y est, ça vous dit? Ça vous... Éphésiens chapitre 5. Je crois qu'Éphésiens, c'est mon livre préféré. Et on avait lu quelques versets, trois versets, Éphésiens 5, 15 à 17. On va peut-être continuer sur ça. On avait parlé de l'importance d'entendre la parole de Dieu sans condamnation, sans accusation. Quelquefois, la parole de Dieu peut nous corriger, nous reprendre, nous venir gratter un petit peu dans certains domaines de nos vies où on n'est peut-être pas à la hauteur, où on a besoin de grandir. Mais. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est juste écouter, nous humilier, écouter ce qu'il a à dire, lui demander son aide pour entendre, pour comprendre la parole de Dieu, et puis pour répondre à cette parole de Dieu avec la foi, dans l'obéissance. Et ce n'est pas d'arriver toujours à tout réussir, mais au moins de désirer vivre la parole de Dieu, qu'elle devienne pour nous nourriture de notre âme, qu'elle construise en nous, qu'elle œuvre en nous, qu'elle nous amène dans l'expérience de la vérité, dans l'expérience de la communion, dans l'expérience de l'intimité avec Dieu. Donc peut-être qu'on manque des fois de lucidité, de discernement, de sagesse, mais on peut la demander à Dieu, hein. Jacques chapitre 1 verset 5. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime assez pour nous dire la vérité. C'est pas, vous savez, quand on ne dit pas la vérité aux gens, ce n'est pas une preuve d'amour. Alors, il y a façon et façon de dire la vérité. Hein. Évidemment, si on dit la vérité de manière sèche, légaliste, avec un jugement derrière, avec la condamnation, avec la honte, avec l'humiliation, ce n'est pas comme ça qu'elle est communiquée. C'est pas comme ça. Hein, on avait parlé de ce verset de c'est où ce verset déjà? Colossiens 4, 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Si Dieu nous demande dans notre communication d'user de grâce, à combien plus lui-même, quand il communique avec nous, utilise ce moyen-là aussi. C'est une parole de grâce. C'est la parole de grâce qui nous transforme, qui nous restaure, qui nous donne envie de l'entendre, de l'écouter, de l'obéir. Donc c'est une parole de vérité, une parole de grâce, c'est Jésus-Christ. C'est la pleine révélation, c'est le plein conseil de Dieu. Un autre point aussi, c'est que la parole de Dieu n'est jamais pour mon voisin, ma femme, mes enfants. Elle est d'abord pour moi, la parole de Dieu. Donc, des fois, on se dit, ouh, lui, ça devrait lui faire du bien d'entendre ce message. Ok, peut-être, on prie pour ça, mais d'abord, ça doit me faire du bien à moi. D'accord? Voilà. Et n'utilisons pas la parole de Dieu pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire, mais laissons la parole de Dieu nous amener à faire ce que nous, on a à faire. Et les autres, sa vie devant Dieu. D'accord? Alors on peut prier pour que chacun, évidemment, grandisse dans la parole de Dieu et apprécie la parole de Dieu. Donc, on va revenir sur Éphésiens chapitre 5, verset 15, et on va voir ce qu'on peut dire un petit peu sur ce texte. On va le lire tout d'abord. Seigneur, merci de bénir ta parole et merci pour la parole de Dieu. Et comme l'a si bien dit Michel, apprends-nous à écouter la parole de Dieu avec le cœur de Dieu, avec l'esprit de Dieu, avec la compréhension de cette vérité et de cette grâce qui sont ensemble et qui nous donnent la capacité d'y répondre favorablement et de pouvoir l'expérimenter et en devenir un témoin, une lumière, en ayant dans nos vies. Ce sel qui donne envie aussi aux autres de connaître cette vie, cette joie, cette paix qui nous anime, parce que ta parole est vivante en nous. Tu es vivant en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Éphésiens 5, 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. En fait, c'est une exhortation où Dieu nous rappelle notre responsabilité en tant qu'être humain, avec le libre arbitre qui nous a offert et les choix que nous prenons. Une chose qu'on peut dire par rapport au temps, c'est que le temps ne peut être ni arrêté ni remonté. Ce qui veut dire qu'on avance tous. Pour aller où ? Question. Qu'est-ce qu'on fait du temps qui nous est donné ? Quelle direction empruntons-nous ? De quelle manière conduisons-nous notre vie, nos choix ? Est-ce qu'on vit par la foi ou par la vue ? Par la raison ou les émotions ? Est-ce qu'on a une vision, un but, des objectifs à atteindre ? Ça fait beaucoup de questions, hein ? Et en fait, c'est des questions auxquelles on pense rarement, parce qu'on est souvent emporté par le flot de la vie, les circonstances, les obligations, les détails, les distractions. Et on ne réalise pas qu'en fait, on avance. Et ces questions, en fait, sont primordiales, sont même essentielles. Et c'est vrai qu'on est tous... et c'est pas, comment dire, c'est le contexte, c'est notre culture, c'est la façon de vivre, mais on gaspille beaucoup de temps en réalité, même si on court partout, et moi le premier. Et comme tu le disais pas, Michel, mais on peut dire que la vie est courte. Je parle des fois avec ma maman, elle a 85 ans, elle n'est pas là ce soir, mais elle va nous écouter cette nuit, si elle ne dort pas. Je te fais un gros bisou, maman. Et elle a 85 ans, elle me dit, mais la vie, c'est court. C'est court. C'est très court, une vie. Et alors, c'est vrai que quand on a, pour les plus jeunes, quand on a 15, 16, 17 ans, bon, la vie... C'est vrai qu'il y en a plus devant, ça, c'est sûr, mais ça va vite passer. Ça va très vite passer. Donc, par rapport à toutes ces questions, sur quoi est-ce que je m'appuie pour trouver les réponses ? Et l'homme, souvent, il pense trouver au moyen de son intelligence, de sa raison, de son expérience, de sa sagesse, de la philosophie, d'idéologie. Ça va l'aider à... Ça va lui offrir les clés pour conduire au mieux sa vie. Et c'est le monde fonctionne comme ça, n'est-ce pas ? Pourtant, dans l'histoire humaine, on a acquis beaucoup de connaissances, on a démontré d'énormes compétences, on a développé des technologies à couper le souffle. Et pourtant, malgré toutes ces avancées dont nous, bon, on peut être fiers, je veux dire, aujourd'hui, ce que la médecine peut faire, c'est quand même extraordinaire, mais pourtant, l'homme souffre toujours d'injustice. On n'a pas réglé ce problème-là. De graves injustices entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, ceux qui ont toujours plus et ceux qui ont de moins en moins. Et il ne sait pas qui il est, il ne sait pas d'où il vient et il ne sait pas où il va. C'est des grandes questions. Bon, on peut pas, ça, pour nous, on ne s'étonne pas, puisque l'homme s'appuie sur l'homme et met sa confiance dans l'homme pour trouver des solutions et des réponses. Et évidemment, il tourne toujours en rond. Il pense qu'il est le maître, et il vit comme s'il était le maître. Hein. Il est le Dieu, on l'a vu dans Genèse chapitre 3. Vous serez comme des dieux, vous serez comme Dieu. Il vit égoïste, prisonnier de sa culture, de son époque, d'idéologie, de religion qui l'entoure. En fait, il vit en s'appuyant sur la sagesse d'en bas. Et on va le voir, c'est l'exhortation de vivre pas comme des insensés, mais comme des sages. Et en fait, l'insensé, c'est celui qui n'a pas la sagesse. Mais on pourrait dire, ce monde a une sagesse. Et j'aimerais vous dire, oui, ce monde a une sagesse. Elle est terrestre. Jacques le dira très bien, elle est terrestre, elle est charnelle, elle est même diabolique. C'est la sagesse d'en bas. En fait, l'homme est aveuglé par l'orgueil, enflé par ses connaissances, et dans tout ça, ils ont perdu le sens, ils ont rejeté la sagesse. Ce monde a rejeté, ne veut pas entendre parler de la sagesse, ne veut pas écouter la sagesse, ne veut pas écouter la parole, ne veut pas même reconnaître qu'il y a la parole de Dieu. Pour eux, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est un livre, c'est juste un livre. Non, c'est la parole de Dieu. C'est la sagesse incarnée. Et Paul le dira très bien en Romains 1:22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Mais ils continuent d'avancer et le temps continue d'avancer. Et les gens continuent de mourir. Et vous qui m'écoutez ce soir, ou plus tard sur les MP3, sur quelle sagesse t'appuies-tu? Pourtant, on connaît ce verset par cœur. Je suis sûr, si je vous le demandais, Proverbe 3:5 nous dit quoi? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. On le sait, on peut le dire ce verset, mais combien de fois on s'appuie encore sur notre sagesse? En fait, tu nous rappelles qu'on a besoin de lui, de sa lumière, de sa parole, de sa présence, de sa grâce, de son amour, de son secours. Et en fait, lui, j'aimerais vous dire qu'il est désireux de nous enseigner. Et même, il déborde de patience pour nous offrir la meilleure éducation possible. La question, c'est est-ce que je désire? Est-ce que je prends conscience de mon besoin? Parce que notre propre sagesse nous séduit, la sagesse de ce monde peut nous séduire. Ésaïe 30, verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Si on n'est pas à l'écoute de cette voix, si on n'est pas à l'écoute de ce que Dieu dit, j'aimerais vous dire, les hommes, et nous, en tant que chrétiens, on peut aller à droite ou à gauche. On va dire, bah, c'est pas grave, on va aller à droite ou aller à gauche. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend à droite ou à gauche. Et une fois que tu l'as vécu, tu dis, ah mince, mais si c'était possible d'aller en arrière ou de revenir en arrière, on fait comme sur les vidéos, on revient en arrière, on recommence. Mais ça ne marche pas, ça. Ça, c'est dans le monde du virtuel, n'est-ce pas? Et Dieu nous dit, marche avec moi. Laisse-moi m'occuper de cette rébellion intérieure et naturelle que tu as. Laisse-moi t'aimer et te conduire sur la voie droite. Psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Ça, c'est l'attitude qu'on devrait avoir, l'humilité. Ça, c'est la sagesse d'en haut qui nous parle, qui nous permet de parler comme ça, n'est-ce pas? La sagesse d'en bas, on n'a pas besoin que quelqu'un nous conduise, on sait très bien nous conduire nous-mêmes. On est des grands maintenant. Parce que en réalité, cette voie nous amène vers la dignité. Elle va forger en nous le caractère de Christ et va nous permettre d'expérimenter la joie de pouvoir porter du fruit, un fruit éternel, et de faire fructifier le talent que Dieu nous a donné. Entre parenthèses, la Bible nous ramène tout de suite dans l'humilité par rapport à ceux qui ont des talents ou un ou des talents. C'est 1 Corinthiens 4:7, il dit « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Je veux dire, tout commence avec Dieu. Si tu es intelligent, c'est une grâce de Dieu. Intelligent selon ce monde. Et peut-être cette intelligence peut t'aveugler, te séduire. Parce que tu es attaché à la sagesse d'en bas et que tu ne vas pas t'appuyer sur la sagesse d'en haut. Tu ne vas pas avoir l'humilité de reconnaître ton besoin. Alors, revenons un peu au texte. Le verbe pour prendre garde, c'est le verbe blepo en grec, qui est conjugué au présent actif impératif. Ça veut dire que c'est un commandement. Ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire. Et s'il nous demande de le faire, c'est que c'est possible de le faire. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Et celle-là, visiblement, si Dieu nous demande, c'est qu'on peut faire. On peut faire attention, on peut regarder, on peut discerner, on peut prendre le temps de réfléchir à notre vie. Hein? Pour nos jeunes, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Pour ceux qui sont déjà dans la vie active, qu'est-ce que je veux pour ma famille, pour mon couple, pour mes enfants? Hein? Regarder, discerner, demander à Dieu cette sagesse d'en haut pour discerner. Maintenant, à quoi devons-nous prendre garde? Ben à notre marche, à notre conduite, à notre comportement. C'est traduit par conduite ou comportement, et le mot en grec, c'est le mot un péripatéo qui parle de la marche du croyant, la marche avec Dieu. J'aimerais vous dire que c'est important d'être honnête avec nous-mêmes, avec nos désirs, avec nos priorités, avec nos choix, avec la direction dans laquelle nous nous dirigeons, avec peut-être aussi réfléchir à notre attitude. Parce que c'est pas simplement, Dieu ne regarde pas simplement à ce qu'on fait ou ne fait pas, mais quelle est notre attitude ? Est-ce qu'il y a de l'humilité ? Est-ce qu'il y a de la foi ? Est-ce qu'il y a de la dépendance ? C'est ce que Dieu nous demande, n'est-ce pas ? Dans Michée chapitre 6, verset 8, « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. » Qu'est-ce qu'il nous demande, tiens ? Vous savez ce qu'il nous demande ? Hein ? C'est qu'on pratique la justice. Ça veut dire que notre comportement, notre conduite, notre marche, c'est pas juste « Oh, je connais ce qu'il faut faire, mais bon, c'est pour les autres. Moi, je sais. Moi, j'ai pas besoin de faire ça. Ah bon ? Ah bon ? Restez concentrés, les jeunes. D'accord ? Quand je parle, je veux qu'on honore la parole de Dieu. Pas moi, mais la parole de Dieu. S'il vous plaît. Pratiquez la justice. Pensez qu'être chrétien, c'est juste faire des belles prières, venir à l'église, demander la grâce. Pratiquez la justice dans un monde d'injustice, dans un monde de méchanceté, dans un monde de haine, dans un monde de violence. Pratiquez la justice. Que tu aimes la miséricorde. Ah, dans un monde où tout le monde veut avoir raison et dominer sur l'autre, la miséricorde, pardonner, faire grâce, oublier, soutenir, supporter, la miséricorde, c'est ça qui nous change. Vous savez qu'on a besoin de miséricorde pour se supporter nous-mêmes ? Eh bien, elle est disponible, la miséricorde de Dieu, n'est-ce pas ? Et, troisièmement, que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, cette attitude d'humilité, je crois qu'elle est tellement importante. Est-ce que je suis indépendant ? On vit dans un monde individualiste où chacun fait ce qu'il veut comme il lui semble bon. C'est la conclusion du livre des juges, ça. Chacun faisait ce qui lui semblait bon à ses propres yeux. C'est la sagesse de quoi, ça ? C'est la sagesse d'en bas. C'est la sagesse terrestre. C'est la sagesse pour une vie peut-être confortable, une vie agréable, une vie qui peut jouir pour un instant, pour un tout petit instant, de ce que le monde, le péché, la jouissance du péché peut produire, peut offrir. Suis-je indépendant ? Proverbe 18:1, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Là, on parle de la sagesse d'en haut. L'insensé, il s'irrite contre la sagesse d'en haut. L'insensé, il dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. D'accord ? J'ai pas besoin de Dieu. Mais nous, on sait qu'on a besoin de Dieu. On sait qu'il y a un Dieu. On sait qu'il y a un Dieu qui est sage. Un Dieu qui a beaucoup de sagesse. Et le mot pour circonspection, c'est le mot akribos. C'est un adverbe, ça veut dire de manière exacte, de manière précise, de manière soigneuse. C'est-à-dire, voilà, on doit faire attention à notre comportement, à ce qui sort de notre bouche, à nos actes, à nos attitudes, à nos réactions. Est-ce que ça veut dire qu'on est parfait ? Vous savez bien, depuis que vous m'écoutez, on n'est pas parfait. Mais on doit être vigilant. Et peut-être on a fait une erreur, peut-être on a mal parlé, peut-être on a mal réagi, peut-être on a lever le ton un peu trop, ou peut-être on n'a rien dit quand il fallait le dire. Ben, si on est, si on discerne, si on regarde, on fait attention par rapport à ça, ben peut-être qu'on peut rebondir. Et ça demande beaucoup d'humilité de rebondir. Mais c'est un chemin qui conduit vers la gloire, qui conduit vers la restauration, qui construit, qui édifie nous, mais pas que nous, ceux qui sont autour de nous. Parce que là, on voit que ce n'est pas juste l'homme qui se préserve, l'homme qui se glorifie, on voit qu'on élève une autre personne. Celui qui est digne d'être élevé, c'est le Christ. C'est le Christ. Donc, en fait, c'est une prise de conscience, pas de se prendre nous-mêmes au sérieux, mais de prendre au sérieux la vie, et le temps qui nous est donné et les choix qui sont les nôtres. Parce que c'est facile de laisser conduire sa vie par les circonstances. Les gens, bon, c'est comme des... Comme, vous savez, sur les voitures auto-tamponneuses. Je me souviens avoir fait ça dans ma toute petite enfance. Poum, il y en a un qui te pousse et tu vas par là. Et après, il y en a un autre qui va te pousser, tu vas par là. Et les gens vivent leur vie comme ça. On rencontre un tel, on rencontre un tel. Et la Bible nous dit, 1 Corinthiens 15, 33, là... Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs et peut-être que les paroles qu'on entend, les gens qu'on fréquente, le temps qu'on passe avec eux, nous influencent par-ci, par-là, on prend des décisions et on laisse nos émotions, nos envies nous conduire. À votre avis, ça c'est quoi ça? C'est la sagesse d'en bas. C'est celui qui, en fait, celui, l'insensé, c'est celui qui est asophos, c'est celui qui est sans sagesse, qui n'a pas la sagesse, qui n'est pas sage. Et en fait, c'est qui vous conduit là? Ben, c'est moi qui conduis ma vie. Derrière, il y en a un qui tient les manettes et tu ne rends même pas compte. Et il te conduit à la baguette, il te conduit comme il veut, parce qu'il te connaît. Et ce qu'il veut, ce n'est pas ton édification, ce n'est pas la construction de ton caractère, ce n'est pas que tu portes du fruit éternel, ce qu'il veut, c'est te détruire. C'est t'amener dans une impasse, c'est t'amener à la désespération. Je ne sais pas si c'est français, au désespoir. Mais vous m'avez compris. J'ai eu un coup de fil avec un frère, nos amis canadiens, Gilles et Marilyn. Petit pied, il s'appelle. On était au téléphone hier et il me parlait d'un pasteur. Je ne savais pas qu'il était pasteur, mais qui, depuis une vingtaine d'années, a pris à cœur d'aller frapper à toutes les portes de toutes les villes et villages du Québec. Alors, ce n'est pas le Canada, mais c'est déjà pas mal, le Québec. Et pour aller à la rencontre des gens qui font face au suicide. Apparemment, il y a pas mal de problèmes. Enfin, vous savez qu'en France, on a un gros taux de suicide des jeunes. Voilà. Mais au Canada, apparemment, c'est encore plus important. Et en fait, c'était un pasteur. Et il a eu un de ses fils qui s'est suicidé il y a 20 ans. Et depuis, et il y a beaucoup de fruits, apparemment. Et peut-être qu'un jour, il viendrait en France, et peut-être même à Nîmes, pourquoi pas, pour qu'on démarre un ministère comme ça, aller à la rencontre. Parce qu'on parlait avec Roger et Isabelle dernièrement, et vous savez, quand tu grattes un petit peu à la surface, et derrière le verre, devant, enfin avec le vernis, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est content, plus ou moins. Mais dès que tu grattes un petit peu, tu vois les blessures, tu vois les cœurs brisés, tu vois les souffrances, tu vois les peines, tu vois les difficultés du quotidien, tu vois la souffrance. Ben voilà, on est dans un monde où on gémit encore ici, n'est-ce pas? Et quelle est la solution par rapport à ça? Ben, la solution, c'est la parole, c'est l'espérance, c'est Christ, c'est le Saint-Esprit, c'est la communion avec Dieu. C'est de pas vivre en insensé, mais de vivre en sage. De racheter le temps qui nous est donné, de vivre, de savoir où... Voilà, ça ne veut pas dire qu'on réussira tout, mais on est en chemin avec Jésus. Et on accepte de tenir sa main. Et quand on lâche, parce que ça nous arrive, lui, il lâche pas. Ça, c'est la bonne nouvelle. Lui, il lâche pas. Donc, je vais m'arrêter. Et là, encore 2-3 minutes pour conclure cette partie-là, en tout cas. Et je veux dire, on peut vivre sa vie soit d'une manière sage, soit d'une manière insensée. Mais j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas une voie intermédiaire. Moi, je suis entre les deux. Je navigue. Non, soit on fait confiance à Dieu, on est conduit par le Saint-Esprit, on a la sagesse d'en haut, on a la parole, on a la vie de Dieu en nous, on a le Saint-Esprit. Ou soit on vit comme des insensés. Alors, on peut être enfant de Dieu et vivre comme un insensé, hein, si on est charnel. On ne perd pas son salut. Mais qu'est-ce qu'on perd? Ben, du temps, des âmes, des amitiés... de glorifier Dieu, de porter du fruit, enfin des choses extraordinaires. On perd des choses. pas dire oh, c'est pas grave. Non, non, c'est perdu. Alors, on ne regarde pas au passé, on regarde pas, on n'est pas, on regarde devant, dire Seigneur, aide-moi à racheter le temps. Puisque c'est ton exhortation, puisque tu demandes de, voilà, de prendre garde à la façon dont je vis ma vie. Et pas d'être fort, mais au contraire, d'être faible devant Dieu et dire j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de penser avec toi, j'ai besoin de continuer à ouvrir la Bible, j'ai besoin de continuer à chercher. Aide-moi. Parce que dès qu'on se satisfait de nous-mêmes et de notre propre sagesse et du petit monde qu'on arrivait à sécuriser, plus ou moins confortable, on s'endort, on s'éloigne, on s'endurcit. Sans s'en rendre compte, on vit comme des insensés. Je conclurai avec ça. C'est que la sagesse d'en bas, quelquefois, peut nous troubler. C'était Asaph, dans le psaume 73, il a cette réflexion, et où il se dit que son pied allait fléchir, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Il y a des insensés dans ce monde, tu dis, ils sont riches, ils sont beaux, ils sont en bonne santé, ils font tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils font leur réussissent, mais pétard, mais c'est cette vie-là que moi je veux. Quand tu es jeune, tu dis, c'est cette vie-là que je veux. Moi, je veux être un YouTuber, faire tout ce qui me plaît, pas beaucoup travailler, beaucoup m'amuser. Bon, je pense que c'est du travail, quand même, ceux qui font les histoires de... On dirait qu'ils gagnent bien leur vie sans rien faire, mais bon, il faut y être tous les jours. Il faut être discipliné, ça ne se fait pas comme ça. Mais un peu, c'est l'idée qu'on a, tu vois. Aujourd'hui, je discutais avec le mécanicien qui a révisé notre minibus. Il me dit, je ne trouve pas de mécanicien. Plus personne n'a envie de faire ça. Ou alors si, il va trouver des mécaniciens, mais il faut les payer. Ils pensent qu'ils ont des mains en or. Mais... Alors peut-être que ce sont des bons mécaniciens, mais... les gens veulent... On vit dans un monde... D'accord ? On voudrait... Alors, il y a des gens qui donnent l'impression que, voilà, sans rien faire, ou le succès, ou la gloire, ou l'argent facile, je ne sais pas. Et tu te dis, mais pétard, mais moi, je voudrais ça. Et en fait, on ne va pas tout lire, mais c'est le psaume 73, si vous voulez le relire peut-être ce soir avant de vous coucher. Et verset 16, il dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » Et attendez, c'est pas juste « Oh ben oui, c'est évident ce que tu dis, pasteur. » Non, la vie, les situations, les circonstances, des fois on préférait avoir une vie facile, confortable, financièrement sécurisée, qu'une vie par la foi. Qui dépend de Dieu. Hein? Et verset 17, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. J'aime me dire, tant qu'on ne pense pas avec Dieu, je veux dire, la sagesse d'en bas, elle se compare, mais dès que tu penses avec Dieu, tu dis, oula, oula, oula. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Peut-être qu'ils, pour un temps, ils jouissent de ce monde et du péché. Ils en profitent, mais ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps. Et ils passent à côté de l'essentiel, de connaître Dieu, de marcher avec Dieu, de vivre comme avec la sagesse d'en haut, de racheter le temps, de connaître quelle est la volonté du Seigneur. Parce que ça, c'est éternel. Le reste, ça passera. Connaître la volonté du Seigneur. Donc, je voulais juste nous encourager ce soir à vivre avec cette sagesse qui vient d'en haut et de demander l'aide de Dieu pour qu'on obéisse à ce qu'il nous demande, d'être vigilant à notre vie, à notre conduite, voilà, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut pour notre vie, et qu'on lui demande son aide pour rester attaché humblement. Marcher humblement avec lui et que notre vie puisse refléter un peu de la sienne pour le bénéfice de ceux qui nous entourent, pour les relations qu'on va construire les uns avec les autres. Quand Christ est au milieu, mes amis, ça change tout. S'il n'y a pas Christ, s'il y a quelque chose de bancal, et tôt ou tard, ça explose à la figure. On met des attentes auxquelles les gens ne peuvent pas répondre. On a des attentes que les gens ne peuvent pas remplir. Il n'y a que Christ qui peut nous combler, personne d'autre. Mais quand on est comblé, on n'est plus dans l'attente des autres, on est dans le don de soi. Ça, c'est la sagesse d'en haut. Que Dieu vous bénisse.